OK, on va commencer notre 25e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. On va continuer ce soir l'étude des précurseurs de la Réforme, qu'on pourrait dire. On va regarder notre deuxième leçon sur le pré-réformateur qu'on appelle Jean Hus. Alors, on avait vu dans nos dernières leçons comment les idées de Wycliffe avaient rayonné considérablement en Angleterre et aussi hors d'Angleterre, particulièrement à Prague et dans toute l'Europe centrale, où elles inspirèrent un autre grand pré-réformateur, Jean Hus. Donc, dans la partie 1 de notre étude, la semaine dernière, on avait vu comment l'influence de Jean Hus s'avait étendue au point d'alerter les autorités de l'Église catholique, qui finirent par l'excommunier pour ses sympathies avec les thèses de Wycliffe. Alors, on a vu la semaine dernière qu'il avait été excommunié, et ce qui l'avait sauvé de la mort à ce moment-là, c'est qu'il y avait trois papes, et que les trois papes se chicanaient entre eux autres, donc pendant qu'ils se chicanaient, lui a eu comme un moment de répit. Mais là, à un moment donné, ils ont décidé que de régler son cas. C'est ce qu'on va voir cette semaine, comment ils s'y sont pris pour régler son cas. Alors, bien sûr, tout ça, c'était ils l'ont convoqué à un concile qui s'est produit à Constance. Alors, bien que Hus n'eût guère que 40 ans, il avait accompli la plus grande partie de sa remarquable carrière. Une plus courte, mais plus grande, était devant lui. Dans la tranquillité de son lieu de naissance, il avait creusé plus profondément les Écritures et s'était affermi dans les vérités qu'il y avait puisées. En même temps, dans la communion avec son Dieu et son Sauveur, il s'était fortifié en esprit pour le prochain combat. Quant à lui-même, il semble bien n'avoir eu aucun doute sur ce qu'était Rome. Il avait été émancipé intérieurement de son esclavage et des ténèbres de ses enseignements, mais il ne s'était point séparé extérieurement. Ce que Dieu lui avait enseigné et avait fait pour lui, il désirait y faire participer son pays qu'il aimait. Il avait préparé le terrain et répandu la bonne semence. Quelques fruits se montraient, mais le temps de la moisson n'était pas encore venu. Alors, on sait que sous sa prédication, il y avait eu beaucoup de conversions dans le pays, mais ce n'était pas encore le temps de la réforme comme durant le temps de Luther et Calvin. Alors, il fallait attendre le jour de la réformation. Il avait rendu témoignage à la vérité dans la chaire de Bethléem. Alors, Bethléem, ce n'était pas le Bethléem d'Israël, c'était le Bethléem, une ville qui s'appelait Bethléem, d'une chapelle qui s'appelait Bethléem dans Prague. Il avait prêché la parole de Dieu là. Et aussi, il avait répandu ses écrits. Il allait maintenant monter sur une autre scène devant un auditoire bien différent et scellé par sa mort, son témoignage. Presque toute la Bohême, d'ailleurs, était avec lui, surtout dans son opposition à la domination des prêtres. Nous avons vu que pour mettre un terme au schisme qui déchirait l'Église, l'empereur Sigismond avait décidé le pape Jean XXIII à convoquer un concile à Constance. Comme le concile devait s'occuper aussi de juger et de réprimer les hérésies de Wycliffe et de Hus, l'empereur demanda à son frère Winceslas, roi de Bohême, d'envoyer Hus à Constance pour paraître devant le concile. Alors, Jean XXIII, il ne faut pas se tromper ici, il y a un pape qui a porté le nom de Jean XXIII, mais il était considéré un des trois papes, et il était tellement une vie morale dissipée que les cardinaux l'avaient mis dehors lui-même. Alors, l'Église catholique aujourd'hui le considère comme un antipape, mais à l'époque, il était pape. Alors, le fameux frère de Sigismond, qui s'appelait Winceslas, il avait promis de lui donner un sauf-conduit pour le protéger. Alors, pourquoi il donnait un sauf-conduit pour le protéger? Parce qu'il savait très bien que l'envoyer là-bas sans protection, c'était risqué que l'Église catholique fasse tout simplement organise pour qu'il perde sa vie en chemin. Alors, Hus continuait à s'occuper avec bonheur et bénédiction de la prédication de l'Évangile lorsqu'il reçut l'ordre de partir pour Constance. Il n'avait pas besoin d'être pressé d'obéir depuis longtemps. Il désirait d'avoir l'occasion de se laver publiquement de l'accusation d'hérésie et d'exposer sa foi et son enseignement. En même temps qu'il avait à cœur de rendre témoignage contre les corruptions de l'Église, il écrivit à l'empereur, « Sous le sauf-conduit de votre protection, avec la permission du Très-Haut, je partirai au prochain concile de Constance. » Plusieurs de ses amis à Prague, où il était retourné, craignaient pour sa sûreté, mais rien ne put ébranler sa résolution. Il remettait sa cause à Dieu. « Si ma mort, disait-il, peut glorifier son nom, qu'il veuille la hâter et qu'il m'accorde la grâce d'endurer avec courage tout le mal qui peut m'arriver. Mais s'il vaut mieux pour moi que je revienne vers vous, alors supplions Dieu que ce soit sans aucun mal, je veux dire sans que sa vérité ait souffert, de sorte que nous soyons désormais capables d'arriver à une plus pure connaissance de la vérité pour détruire les doctrines de l'Antichrist et laisser un bon exemple à nos frères. » Le sauf-conduit de l'empereur était ainsi conçu. À tous les princes séculiers et ecclésiastiques et à tous nos sujets, nous vous recommandons avec une entière affection, à tous en général et à chacun en particulier, l'honorable maître Jean Hus, bachelier en théologie, maître Essard, porteur de ses présentes, se rendant au concile de Constance et que nous avons pris sous notre protection et sauvegarde. Hus avait de plus une déclaration d'orthodoxie signée par le nouvel archevêque de Prague et une recommandation du roi. Le 11 octobre 1414, Hus quitta Prague. Le roi lui avait donné pour l'accompagner les chevaliers Wenzel de Duba et Jean de Clum. Partout, dans le cours de son voyage, qui dura plusieurs jours, on lui témoigna un grand intérêt. Les foules accouraient sur son passage pour le voir, et il en profitait pour rendre raison de l'espérance qui était en lui, et pour annoncer ce que l'Écriture lui avait enseigné. Le 3 novembre, il entra dans Constance. L'empereur n'y était pas encore, mais le pape Jean XXIII s'y trouvait déjà, et Hus lui fit connaître son arrivée. Durant 4 semaines, on le laissa tranquille, mais ses ennemis personnels, Palets avec eux, étant arrivés, ils mirent tout en œuvre contre lui. Le 28 novembre, Hus était dans son logement avec le chevalier de Clum lorsqu'on annonça des visiteurs. C'étaient les évêques d'Augsbourg et de Trente avec 2 autres. Il venait l'assigner à paraître devant le pape. Hus protesta. C'était devant le concile qu'il voulait être entendu. Le chevalier de Clum protesta aussi, mais les évêques lui donnèrent l'assurance que l'on n'avait aucune mauvaise intention contre Hus. Ils partirent donc. Au bas de l'escalier, ils rencontrèrent la maîtresse de la maison qui prit congé de Hus avec larmes. Il lui donna sa bénédiction. Arrivé devant le pape, ses ennemis produisirent contre lui une longue liste d'accusations. Ils se réjouissaient de l'avoir entre leurs mains et disaient ouvertement, « Maintenant que nous te tenons, nous ne te lâcherons pas jusqu'à ce que tu aies payé le dernier cadran. » Des soldats avaient été placés dans les rues adjacentes pour prévenir tout trouble. Vers le soir, on ordonna à Clum de se retirer. Hus devait rester. Le chevalier vit alors le piège qu'on leur avait tendu et, rempli d'indignation, il se rendit auprès du pape et lui reprocha sa trahison. Le pape déclara que ce n'était pas de son fait, mais celui de ses cardinaux. Ce pouvait être vrai, car il était à leur merci. Hus, refusant de se rétracter, fut mis en prison sous la garde du greffier de la cathédrale et, 8 jours après, il fut transféré dans la prison du couvent des Dominicains au bord du Rhin. Le chevalier de Chlum se hâta d'informer l'empereur de la violation de son sauf-conduit. Dans toute la Bohême, l'indignation fut grande et les seigneurs de ce pays demandèrent à Sigismond qu'il fît mettre Huss en liberté. L'empereur, au premier moment, fut rempli de colère et donna l'ordre de relâcher le prisonnier, maintenant menaçant de briser les portes de la prison si on ne le faisait pas. Mais lorsqu'il fut arrivé à Constance, les prêtres lui persuadèrent que l'on n'était pas tenu de garder la foi à des hérétiques et Huss resta en prison. Rien ne peut excuser le manque de foi de l'empereur, mais combien plus grand est le crime du pape et des princes de l'Église qui, pour ne pas laisser échapper leur proie, l'ont poussé à se parjure. Avant de juger Huss, le concile avait à s'occuper de mettre fin au schisme. Dès la première séance, il fut décidé que les 3 papes rivaux devaient renoncer à leur dignité avant que l'on pût nommer un nouveau chef suprême de l'Église. Jean XXIII, seul des 3 présents au concile, promit pour l'amour de la paix dans l'Église d'abdiquer publiquement le lendemain. Mais qu'étaient les promesses, l'honneur et la conscience pour un tel homme? Aidé par quelques amis, il s'enfuit de Constance sous un déguisement afin que son absence empêchât le concile de prendre aucune décision. L'empereur, irrité, le fit poursuivre. Jean fut saisi à Fribourg, ramené à Constance et forcé de déposer les insignes de son pouvoir spirituel, le sceau et l'anneau du pécheur. L'archevêque de Salisbury déclara qu'un pape qui, comme Jean, s'était souillé de crimes de toutes sortes, méritait d'être brûlé. On l'enferma dans le château de Göttingen, le même où Jean Huss était tenu dans une étroite captivité. L'ex-pape resta là durant 4 ans, jusqu'à la fin du concile. Après qu'il se fut humilié devant le pape régnant, il fut mis en liberté et élevé au cardinalat. On n'usa pas d'une telle douceur envers l'intègre et innocent réformateur, comme nous le verrons. À propos de la condamnation du pape, Huss écrivait à un ami, « Quand l'hiver viendra, ils sauront ce qu'ils ont fait en été. Considérez qu'ils ont jugé leur chef, le pape, comme digne de mort à cause de ces horribles forfaits. Répondez à cela, vous, docteur, qui prêchez que le pape est un dieu sur la terre, qu'il peut vendre et gaspiller les choses saintes comme il lui plaît, qu'il est la tête de tout le corps de l'Église, qu'il est le cœur de l'Église et la gouverne spirituellement, qu'il est la source jaillissante de toute vertu et de toute bonté, qu'il est le soleil de l'Église et le sûr refuge pour tout chrétien. Oui, contemplez maintenant cette tête, pour ainsi dire, séparée par l'épée, ses péchés manifestés, cette source inépuisable tarie, ce divin soleil obscurci, ce cœur arraché et flétri par la réprobation, de sorte que nul ne peut y chercher un refuge. La condamnation de Jean XXIII était en effet la justification de tout ce que Huss avait dit contre la puissance de Rome. Quant au réformateur, bien qu'il sentît ce qu'avait de honteux le manque de foi de l'empereur, sa confiance ne reposait pas sur ce sauf-conduit. « Je me confie entièrement, écrivait-il, dans le Dieu Tout-Puissant, mon Sauveur. Il m'accordera son esprit pour me fortifier dans sa vérité, de sorte que je puisse faire face avec courage aux tentations, à la prison et, s'il le faut, à une mort cruelle. » Le cachot dans lequel Huss avait été enfermé était près de l'égout du couvent, de sorte qu'un air pestilentiel le remplissait. Le prisonnier tomba dangereusement malade. Le pape lui envoya son propre médecin, car ainsi qu'on le disait, que le disait quelqu'un, on ne désirait pas qu'il mourût de mort naturelle. Par l'intercession de ses amis, il fut transféré dans une prison plus saine du couvent des Franciscains et quelques jours après au château de Gottleben, où il fut enchaîné, les mains attachées la nuit par un cadenas au mur contre lequel était appuyé son lit. Là, il attendit le moment d'être appelé devant le concile. Le concile était bien résolu à mettre Huss hors d'état de propager ses enseignements et il aurait voulu éviter le bruit d'un interrogatoire public. Différents passages qu'on en avait tirés de ses écrits étaient jugés suffisants pour passer outre à sa condamnation. D'un autre côté, plusieurs personnes venaient visiter le prisonnier dans sa cellule solitaire et le pressaient de reconnaître et d'abjurer ses erreurs. Sur son refus, il était souvent insulté et maltraité. Il protesta contre cette manière d'agir secrète et inquisitoriale et insista pour être traduit devant le concile afin de pouvoir se défendre publiquement. Son fidèle ami, le chevalier de Chlum, se rendit avec quelques autres gentilshommes de Bohême auprès de l'empereur et le pria de prendre lui-même l'affaire en main. Leur demande fut favorablement accueillie et l'on fixa un jour pour la comparution de Huss. Le dessein des prêtres fut ainsi déjoué. Le 5 juillet 1415, Huss fut amené devant le concile. Sauf deux ou trois gentilshommes de Bohême qui lui restaient fidèles, il était seul devant cette grande assemblée d'ecclésiastiques, de princes et de seigneurs. Son corps était affaibli par sa longue détention et la maladie dont il se remettait à peine, mais son esprit était fort dans le Seigneur. Il était prisonnier, mais libre dans son âme. Il se reconnut comme l'auteur des livres qui lui furent présentés. Puis, on lut les passages incriminés qui devaient motiver sa condamnation. Les uns étaient des citations exactes de ses écrits, d'autres étaient dénaturés, et il y en avait enfin d'entièrement fausses. Mais dès qu'il eut commencé à défendre ses doctrines, en se fondant sur l'autorité des Écritures et sur le témoignage des Pères de l'Église, sa voix fut couverte par des cris violents et tumultueux. Le bruit et l'agitation devinrent tels que le concile se vit obligé d'ajourner la séance. Deux jours après, les débats continuèrent. L'empereur était présent pour maintenir l'ordre. Une éclipse de soleil, presque totale, remplit de terreur l'assemblée et les habitants de la ville. Une obscurité à peu près complète couvrait la cité, le lac et les campagnes environnantes. On pensait que le jour du jugement était arrivé. Enfin, la lumière reparut graduellement et Huss fut introduit. Ses accusateurs étaient là aussi nombreux, mais plus calmes. Le concile avait préparé une formule d'abjuration qu'il fut invité à signer. Huss répondit avec une dignité tranquille, « Je ne me rétracterai rien de ce que j'ai dit ou écrit, à moins que l'on ne me prouve que mes paroles sont en opposition avec la parole de Dieu. » Et comme on l'accusait d'avoir soutenu et répandu les enseignements de Wycliffe, il convint d'avoir dit, « Wycliffe était un vrai croyant, son âme est maintenant dans le ciel, et je ne puis souhaiter pour la mienne une plus grande sécurité que celle que Wycliffe possédait. » Les moqueries et les rires accueillirent cette confession simple et sincère. Après plusieurs heures de discussion, Huss fut reconduit dans sa prison, et les membres du concile se dispersèrent pour se reposer dans les jouissances et les plaisirs que la ville leur offrait. On avait mentionné la semaine dernière que dans la ville de Constance, durant tout le temps du concile, on avait organisé comme un genre de cirque en ville où tout ce monde-là, ces princes-là, s'amusaient, autrement dit, dans leur temps libre, là, pendant plusieurs années. Ça a duré plusieurs années, ça, 4, 5, 6 ans. Là. C'était assez spécial. Le jour suivant, Hus comparut pour la troisième fois. On lui lut 39 articles renfermant les erreurs qu'on l'accusait d'avoir enseignées dans ses écrits, ses prédications et ses conversations privées. Comme la plupart des réformateurs, Hus insistait surtout sur la doctrine du salut par la foi, sans les œuvres. En outre, il affirmait que personne, de quelque charge ou dignité qu'il fût revêtu, fût-il pape ou cardinal, ne pouvait être un membre de la vraie Église de Christ s'il menait une vie profane. La vraie foi à la parole de Dieu, disait-il, est le fondement de toutes les vertus. À l'appui de ses assertions, il en appelait au nom vénéré d'Augustin. Celui-ci soutenait que la possession des vertus apostoliques donnait seule à un pape ou à des prélats un droit à la succession apostolique. Le pape, disait-il, qui n'imite pas Pierre dans sa vie, n'est pas un représentant de Christ, mais un précurseur de l'Antichrist. Là-dessus, Hus citait ce passage de Saint Bernard. Un esclave de l'avarice n'est pas un successeur de Saint Pierre, mais de Judas Iscariote. Devant ces citations, le concile se trouvait très embarrassé et personne n'osant contredire des déclarations de docteurs aussi respectés. Ainsi, il y avait deux chefs principaux d'accusation contre Hus. Il mettait en question la doctrine de l'Église romaine et il condamnait le faux système de la papauté. Mais son affirmation hardie que nulle dignité royale ou sacerdoce n'avait de valeur devant Dieu, si ceux qui la possédaient vivaient dans des péchés mortels, fut surtout ce qui semble avoir emporté sa condamnation. Le cardinal de Cambrai, ayant taxé d'impiété cette déclaration, Hus affirma encore plus fortement qu'un roi qui vit en état de péché mortel n'est pas un roi devant Dieu. Peut-être allait-il trop loin, car l'Écriture nous dit que toute puissance temporelle est établie de Dieu. Mais peut-être aussi voulait-il dire que la dignité royale ne constituait pas un titre à faire valoir devant Dieu et qu'elle n'excuse pas le péché. Quoi qu'il en soit, ses paroles décidèrent de son sort. L'empereur indigné s'écria « Jamais il n'y a eu sur la terre un hérétique plus dangereux. » À quoi le cardinal de Cambrai ajouta « Comment? Il ne te suffit pas d'abaisser la puissance spirituelle, tu veux aussi précipiter les rois de leur trône? » Un homme, avança un autre cardinal, peut être un vrai pape, un vrai prélat ou un vrai roi, alors même qu'il ne serait pas un vrai chrétien. Pourquoi donc, répondit Hus, sans être effrayé, avez-vous dépouillé Jean 23 de sa dignité? À cause de ses iniquités manifestes, répartit l'empereur. Les débats continuèrent. On pressa Hus de toute manière de rétracter ses erreurs et de reconnaître que les accusations portées contre lui étaient bien fondées. On lui demanda de se soumettre implicitement aux décisions du concile. Mais ni promesses, ni menaces n'eurent d'effet sur lui. Abjurer, dit-il, signifie reconnaître et abandonner une erreur que l'on aurait tenue. Quant aux opinions et aux doctrines que l'on m'attribue faussement, je ne puis naturellement pas les rétracter. Quant à celles que je reconnais et que je soutiens, je suis prêt et de tout mon cœur à les abandonner dès que le concile m'en aura enseigné de meilleur. La réponse fut, ce n'est point l'affaire du concile d'enseigner, mais de conclure et d'attendre de toi l'obéissance pure et simple à sa décision. Si tu refuses, les peines résultant de ton obstination te seront appliquées. Et là-dessus, ceux qui auraient dû être des débonnaires pasteurs du troupeau de Christ exigèrent hautement et unanimement ou une rétraction complète ou la mort sur le bûcher. L'empereur, à qui sa conscience pouvait bien lui reprocher son manque de foi, eut, dit-on, un entretien particulier avec Hus. Les plus habiles et les plus savants docteurs en philosophie et en théologie s'efforcèrent de l'ébranler et de l'amener à céder. tout fut inutile. Huss, avec modestie et fermeté, répliqua qu'il ne pouvait rétracter aucune de ses doctrines à moins qu'on en lui eût montré la fausseté par l'Écriture. On le ramena dans sa prison. Son fidèle ami, le chevalier de Clum, l'y suivit afin de le consoler par des paroles de sympathie. Quel rafraîchissement, dit Huss, une fois, de voir ce vrai gentilhomme n'estimer pas au-dessus de sa dignité, d'étendre sa main vers un pauvre hérétique dans les fers et qui est abandonné de tout le monde. C'est à ce véritable ami que Huss, dans son cachot, racontait un songe qu'il avait eu. Une nuit, il crut voir le pape et les évêques effacer les images de Jésus-Christ qu'il avait fait peindre sur les murs de la chapelle de Bethléem. Ce songe l'afflige, mais le lendemain, il voit plusieurs peintres occupés à rétablir les images en plus grand nombre et avec plus d'éclat. Ce travail achevé, les peintres, entourés d'un grand peuple, s'écrient « Que maintenant viennent papes et évêques, ils ne les effaceront plus jamais. » Et plusieurs peuples se réjouissaient dans Bethléem et moi avec eux, ajoutait Huss. Occupez-vous de votre défense plutôt que de rêver, lui dit le chevalier de Clum. Je ne suis pas un rêveur, répondit Huss, mais je tiens pour certain que l'image de Christ ne sera jamais effacée. Ils ont voulu la détruire, mais elle sera peinte de nouveau dans les cœurs par des prédicateurs qui vaudront mieux que moi. Ainsi, ce qui occupait par-dessus tout ce prisonnier pour la vérité, c'était Christ et son triomphe. Dieu lui donnait la sainte confiance que les ennemis de Christ ne prévaudraient pas contre lui. Lorsqu'on eut amené Huss, l'empereur se leva et dit « J'ai entendu les accusations portées contre Huss. Il en a reconnu quelques-unes comme vraies. D'autres ont été soutenues contre lui par des témoins dignes de foi. Pour les unes comme pour les autres, il mérite la mort. S'il n'abjure pas toutes ses erreurs, il doit être brûlé. Il faut que le mal soit extirpé radicalement. S'il se trouve à Constance quelques-uns de ses partisans, on doit sévir contre eux avec la plus extrême rigueur et avant tout contre son disciple Jérôme de Prague. Ce jugement impérial ayant été rapporté au martyr, il dit simplement « J'avais été averti de ne pas me fier à son sauve-conduit. Je me suis fait une grande et douloureuse illusion. Il m'a même jugé avant mes ennemis. » Après cette scène, Huss fut laissé en prison durant un mois. De nouveaux efforts furent faits, même par des personnes du plus haut rang, pour l'engager à se rétracter. On espérait que cette pression incessante, joint à la faiblesse croissante de son corps, finirait par vaincre ce que l'on nommait son opiniâtreté. Ce fut en vain. Celui qui l'avait rendu capable de rendre sans trembler témoignage pour Christ devant ses ennemis, le fortifia aussi contre ses derniers assauts de Satan. Il resta inébranlable, cependant toujours prêt, disait-il, à abandonner toute doctrine qui lui serait démontrée fausse d'après les Écritures. Alors, le deuxième point qu'on va regarder, c'est comment ils l'ont condamné à mort. L'empereur Sigismond avait donné son avis. Le concile n'avait plus qu'à confirmer la condamnation de Huss. Il se réunit le 6 juillet 1415 dans la cathédrale. Comme hérétique, le prisonnier dut rester dehors pendant la célébration de la grande messe. Ensuite, l'archevêque de Lodi prêcha sur ce texte afin que le corps du péché fût annulé. Imaginez prendre des versets pareils pour justifier le fait qu'ils vont brûler un chrétien, c'est incroyable. Évidemment, il entendait par là que l'hérétique devait être brûlé. Cette perversion du sens de la parole de Dieu répondait bien au dessein du concile. La prédication de l'archevêque ne renfermait autre chose que de violentes sorties contre toutes les hérésies et les erreurs jugées telles par l'Église romaine. Il dirigea surtout ses coups contre Huss, qu'il montra comme un hérétique aussi dangereux qu'Arius, et comme un faux docteur pire que Sabellius, il termina par des louanges à l'adresse de l'empereur. « C'est ta charge glorieuse, lui dit-il entre autres, de punir l'hérésie et de mettre fin au schisme et avant tout de châtier cet hérétique obstiné. » Et il indiquait Huss qui, à genoux, priait avec ferveur. On lut contre lui environ 39 chefs d'accusation. Huss tenta à plusieurs reprises de parler pour sa défense, mais on ne lui permit pas. La sentence fut prononcée à peu près en ces termes. Comme Jean Huss, durant de longues années, a perverti le peuple en répandant des doctrines notoirement hérétiques et, comme tel, condamné par l'Église, en particulier les doctrines de Wycliffe, et qu'ainsi il a donné lieu à un scandale public, comme il a, avec opiniâtreté, foulé aux pieds les clés, c'est-à-dire le pouvoir de l'Église, ainsi que les peines ecclésiastiques, et que, méprisant les juges ordinaires de la terre, il en a appelé à Jésus-Christ comme juge souverain, appel qui est insultant pour l'autorité spirituelle, étant à la faire mépriser. Comme de plus, il a persisté dans ses erreurs jusqu'au dernier moment et les a maintenus devant le Concile. En raison de tout cela, nous décidons que, comme un hérétique obstiné et incorrigible, il soit dépouillé de ses saintes dignités et en soit déclaré indigne. Alors, ça, c'est ses dignités de prêtre, là, comme, ben, lui, parce qu'il était encore prêtre de l'Église catholique. Après la lecture de ce jugement, Huss commença à prier à haute voix pour ses ennemis, ce qui fut accueilli par un rire moqueur de la plupart de quelques membres du Concile. Mais Huss, élevant ses mains en haut, s'écria, « Vois, ô Sauveur miséricordieux, comment ce Concile juge comme erreur ce que tu as enseigné et pratiqué. Toi, Jésus, accablé par tes ennemis, tu as remis à ton Dieu et Père ce qui te concernait. Tu nous as laissé ainsi ton exemple afin qu'opprimés aussi, nous ayons notre recours au jugement de Dieu. » Il déclara encore une fois solennellement qu'il n'avait conscience d'aucune hérésie et ne pouvait abjurer ce qu'il n'avait pas enseigné. Puis, jetant un regard perçant sur Sigismond, il ajouta, « Je suis venu dans ce concile en me confiant au sauf-conduit de l'empereur. » Sigismond baissa les yeux, confus au souvenir de son manque de foi. La veille du jour fixé pour l'exécution du Saint-Martyr, il reçut la dernière visite de son ami, le chevalier de Clum. « Mon cher maître, lui dit celui-ci, je suis un homme ignorant et par conséquent absolument impropre à donner un conseil à un homme aussi éclairé que vous. Malgré cela, je vous prie instamment que si dans votre fort intérieur vous avez conscience de quelqu'une des erreurs dont on vous accuse, vous n'ayez pas honte de la rétracter et de l'abandonner. Mais si vous êtes persuadé de votre innocence, je suis si éloigné de vous, conseiller de dire quelque chose contre votre conscience, que je vous exhorterai plutôt à souffrir toute espèce de torture, plutôt que de rétracter ce que vous avez tenu pour vrai. » Huss, profondément touché, répondit avec larmes, « Dieu m'est témoin que j'ai toujours été et que je suis encore prêt à rétracter de tout mon cœur et avec serment quelque erreur que ce soit qui m'aura été montrée telle par les Écritures. » Selon le jugement du Concile, Huss fut dégradé de son caractère de prêtre. L'archevêque de Milan, assisté de 6 évêques, procéda à cette triste cérémonie. Huss fut revêtu de vêtements sacerdotaux. On plaça dans sa main le calice ou coupe de la Seine, et il fut conduit devant le maître-autel comme pour célébrer la messe. Il se laissa faire tranquillement et fit seulement la remarque que son sauveur avait aussi été livré aux moqueries, revêtu d'un habit royal. On lui ôta le calice des mains, on le dépouilla des vêtements consacrés et on effaça de sa tête les traces de sa tonsure. En lui retirant le calice, les prêtres dirent, « Ô Judas maudit, qui a abandonné le conseil de paix et a pris part à celui des Juifs, nous te retirons le Saint-Calice rempli du sang de Jésus-Christ. » Je me confie, répondit Huss, en la miséricorde de Dieu, et je boirai sa coupe aujourd'hui dans son royaume. Nous livrons ton âme au diable de l'enfer, s'écrièrent les évêques. Mais moi, dit le martyr, je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Je te recommande mon âme que tu as sauvée. Rome repousse l'accusation de verser le sang. Le concile déclara donc que l'hérétique Huss était retranché du corps de l'Église et placé hors de son domaine, et elle le livra comme laïc au jugement du pouvoir séculier. C'était la sentence de mort. L'empereur ordonna l'immédiate exécution du condamné. L'électeur Louis de Bavière, maréchal de l'Empire, accompagné de 800 chevaliers et d'une grande foule de peuple, conduisit Huss au lieu du supplice dans une prairie hors de la ville. Le cortège s'arrêta devant le palais épiscopal. Là, on brûla une quantité de livres du réformateur. Huss sourit à la vue de cet acte de mesquine vengeance. Il essaya de dire quelques mots à la garde impériale et au peuple, mais l'électeur ne le permit pas et on donna l'ordre de continuer la marche. Rien ne pouvait troubler la paix du courageux témoin de la vérité. Dieu était avec lui. En s'avançant vers le lieu où le bûcher se dressait, il chantait à haute voix des psaumes et priait avec tant de ferveur que le peuple disait « Nous ne savons pas ce que cet homme a fait, mais nous l'entendons adresser à Dieu des prières magnifiques. » Arrivé près du bûcher, Huss s'agenouilla, pria pour que Dieu pardonnât à ses ennemis et recommanda son âme à Christ. Le poteau où il fut attaché était planté profondément en terre. Des piles de fagots furent entassées sous ses pieds. On l'attacha fortement au poteau, puis on empila autour de lui du bois jusqu'à son menton. Avant de donner l'ordre d'allumer le feu, le maréchal de l'Empire lui demanda si, dans ce dernier moment, il ne voulait pas abjurer ses erreurs et sauver son âme et sa vie. « Quelles erreurs ?» répondit Huss. « Je ne me sens coupable d'aucune. J'appelle Dieu à témoin que tout ce que j'ai écrit et prêché l'a été en vue de sauver les âmes du péché et de la perdition. Et ce que j'ai écrit et prêché, je le scelle aujourd'hui, volontiers, de mon sang. » Le feu fut mis au bûcher, et comme les flammes l'entouraient, Huss commença à chanter à haute voix « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ses souffrances furent de courte durée. Comme d'une voix affaiblie, il répétait pour la troisième fois ces paroles, l'épaisse fumée et la flamme poussée par le vent contre son visage l'étouffèrent avant que son corps fût consumé. Jésus avait eu pitié de lui et son esprit bienheureux était allé près de son Sauveur, dont il avait été un témoin fidèle. On alluma le bûcher une seconde et une troisième fois, afin qu'il ne restât que des cendres de sa personne et de ses vêtements. Et ces cendres mêmes, recueillies avec la terre sur laquelle elles étaient répandues, furent jetées dans le Rhin. Un écrivain dit, « Huss semble avoir pénétré plus avant que ses devanciers dans l'essence de la vérité chrétienne. Il demandait à Christ de lui faire la grâce de ne se glorifier que dans la croix et dans l'opprobre inappréciable de ses souffrances. Il fut, si l'on peut dire, le Jean-Baptiste de la Réformation. Les flammes de son bûcher allumèrent dans l'Église un feu qui répandit au milieu des ténèbres un éclat immense et dont les lueurs ne devaient pas si promptement s'éteindre. » Alors, on va aller aux applications. Les questions, bien, si je les laisse pour ceux qui veulent les faire. Les applications, j'en ai vu trois. Rendons grâce à Dieu d'avoir donné des leaders spirituels fidèles aux Saintes Écritures et forts pour poursuivre son œuvre de diffusion de l'Évangile en Europe. Deuxième application, prions le Seigneur de nous donner un amour du Christ aussi profond que Jean Huss. Troisième application, voyons-nous le lien qu'il y a entre l'amour de la Bible de Jean Huss et son courage? Que l'Éternel soit adoré et béni pour les leaders qu'il a donnés à son Église. Amen.
Amen.